France Inter.
France Inter, Marion Lourd, le 5-6.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver au petit matin. Au programme de ce 5-6, un ancien champion passé à la transmission, portrait dans les chroniques littorales. Et parmi les rencontres de ce matin, il y aura aussi notre invitée déjà debout. Elle fait partie de ces gens, il y en a, qui se réveillent naturellement avant l'aube, frais et dispo. Elle en profite pour décorer des céramiques, elle nous racontera ça. Le grand reportage nous emmènera au Sénégal, où la chirurgie esthétique est très, très à la mode. De la musique aussi, Bertrand Belin, Drake, Lola Young et surtout Monty Booker qui nous emporte avec ses talentueuses invitées dans la playlist de Mathieu Conquet. Avant, un bain cartésien, ça réveille au petit matin et c'est le programme de Café Philo. Voilà, vous avez le menu pour l'heure à venir. C'est parti et je vous accompagne jusqu'à 9h.
France Inter.
Et on démarre avec le journal d'Emma Jacob. Bonjour Emma.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
La COP30 va-t-elle réussir à sortir le monde des énergies fossiles ?
Le pétrole, le gaz et le charbon, parmi les premiers responsables des émissions de gaz à effet de serre. À quelques heures de la fin des négociations du sommet pour le climat à Belém au Brésil, une trentaine de pays, dont la France, l'Allemagne ou encore la Colombie, mettent la pression. Il faut une feuille de route claire pour permettre de se passer de ces combustibles fossiles. Une volonté partagée par de nombreuses ONG, dont Réseau Action Climat. Pour l'une de ses porte-paroles, Gaïa Fèvre, chaque pays doit faire sa part à son rythme.
Je pense que chaque COP se doit d'aller plus loin que la COP précédente. Et lors de la COP de Dubaï, la COP 28, on a décidé collectivement de sortir des énergies fossiles. Maintenant, à cette COP-là, on doit se donner le plan, ou moins le chemin qui va nous mener vers le plan de nous permettre de sortir des énergies fossiles. Donc, il ne s'agit absolument pas de dire que tous les pays doivent sortir en même temps des énergies fossiles. Il y a des pays comme l'Australie, le Canada, la Norvège, qui sont des producteurs, qui ont les moyens d'organiser leur sortie des énergies fossiles et ils ont une responsabilité historique en termes d'émissions passées et ils se doivent de sortir en premier. Ensuite, certains pays, notamment en Afrique et dans d'autres pays plus vulnérables, ont aussi des ressources liées au gaz, au charbon et au pétrole dans leur sol et il faut les accompagner dans cette sortie. Il faut du soutien financier pour ce faire et on ne peut pas leur demander de sortir au même rythme que les pays qui ont les moyens d'organiser leur sortie des énergies fossiles.
Fin de la COP30 ce soir, mais les négociations vont prendre du retard. Hier, les milliers de participants ont dû être évacués à cause d'un incendie. Le site a fermé pendant plusieurs heures. En France, c'est une épée de Damoclès au-dessus de la tête des parlementaires. Si les députés et les sénateurs ne se mettent pas d'accord sur le budget 2026 d'ici le 31 décembre, le gouvernement présentera une loi spéciale. Ce dispositif permet de prélever l'impôt et d'emprunter pour financer l'État et la sécurité sociale malgré l'absence de consensus. Les débats sur le budget reprendrait alors l'année prochaine. Un homme soupçonné d'avoir tué son ex-compagne à Besançon est en garde à vue pour assassinat depuis hier soir. La victime, âgée de 32 ans, a été abattue par balle sur un parking. Elle avait déjà déposé plainte contre le suspect, notamment pour des dégradations commises sur sa voiture.
La marche blanche en hommage à Mehdi Kessassi aura lieu demain à Marseille.
Le frère d'Amine Kessassi, militant contre le narco-banditisme, a été assassiné la semaine dernière. Hier, les ministres de l'Intérieur et de la Justice se sont rendus à Marseille et ont notamment rendu visite à la famille endeuillée. Autre rencontre, celle avec le maire de la ville, Benoît Payan, qui appelle à plus de fermeté de la part de l'État.
J'ai rappelé que cet assassinat était hors du commun, parce que c'est un défi qui est fait à l'État de droit, c'est un défi qui est fait à la démocratie et à la République. Et on ne peut pas faire comme si cet assassinat était un assassinat de plus. Moi, je ne fais pas de comptabilité morbide. Un assassinat, c'est un assassinat de trop. Mais celui-ci, il nous dit autre chose. Celui-ci, il nous dit de nous taire. Celui-ci, il est là pour nous faire peur, pour dire « nous sommes capables de toucher n'importe qui et à n'importe quel moment ». Et c'est en ça que c'est un défi à la République. Et c'est en ça que la République doit être ferme. Nous n'avons pas peur de vous. C'est ça qu'on a besoin de dire à la mafia. Vous ne nous faites pas peur.
Laurent Nunez et Gérald Darmanin ont rappelé leur volonté de mettre la lutte contre le narcotrafic sur le même plan que celle contre le terrorisme. Le parquet national contre la criminalité organisée doit ouvrir le 1er janvier prochain, pensé sur le même modèle que le parquet national antiterroriste. Les députés veulent aussi prendre le problème du narco-banditisme à bras le corps. Un débat extraordinaire va se tenir à l'Assemblée nationale. Une proposition du Parti socialiste approuvée par Sébastien Lecornu. cornu.
L'Ukraine prête à travailler avec les États-Unis pour la fin de la guerre.
Kiev a reçu hier un plan de paix américain. Le texte prévoit notamment l'abandon de plusieurs régions ukrainiennes à la Russie. Volodymyr Zelensky semble donc prêt à faire des concessions, même si le président ukrainien affirme vouloir une paix digne. Le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, lui qualifie ce plan de capitulation, quand Donald Trump estime qu'il est bon pour les deux camps. Cette nuit, de nouvelles frappes russes ont fait 5 morts dans la ville ukrainienne de Zaporijja, selon les secours. Le président américain qui reçoit un invité inattendu à la Maison-Blanche aujourd'hui, Donald Trump rencontre Zohran Mamdani, fraîchement élu maire de New York. Le démocrate socialiste immigré et musulman incarne tout ce que Trump déteste. Et les tensions entre les deux hommes étaient plus que palpables ces derniers mois, Timur Özturk.
Donald Trump l'appelle le maire communiste. Quand Zohran Mamdani a lui promis de combattre le fascisme de Trump, la relation entre le président et le maire s'annonçait tendue, d'autant que Donald Trump a tenté sans succès de lui barrer la route en soutenant son adversaire au municipal, en menaçant de réduire les fonds fédéraux alloués à New York. Au soir de sa victoire, Zohran Mamdani s'était directement adressé à Donald Trump dans une forme de défi. Mais leur rapport semble s'être apaisé. Le maire de New York a demandé à rencontrer le président, qui a immédiatement accepté. « Je travaillerai avec Donald Trump sur tout programme qui profite aux New-Yorkais », affirme même Zohran Mamdani, tandis que le président assurait il y a quelques jours qu'il souhaitait que tout se passe bien à New York, sa ville natale. Quel sera le ton de leurs échanges ? Hier, Zohran Mamdani s'est dit prêt, quoi qu'il advienne.
Timur Özturk, envoyé spécial aux États-Unis pour France Inter. Elle était jugée inutile par Donald Trump. Radio Free Europe va fermer son antenne hongroise, ordre de l'Agence américaine pour les médias mondiaux. Une décision pour satisfaire le premier ministre nationaliste hongrois Viktor Orban, grand ami du président américain. Au mois de mai, l'Union européenne avait débloqué des fonds pour venir en aide à cette radio indépendante qui émet partout en Europe.
En football, toujours 0 point pour les filles du PSG.
La 4e défaite hier soir en Ligue des Champions, 3-1 face au Bayern Munich. Les footballeuses parisiennes sont 18e et dernière du classement. Prochain match le 9 décembre face aux Belges de Louvain. Ce soir en Ligue 1 de football, l'OGC Nice reçoit l'Olympique de Marseille, ouverture de la 13e journée. Les Niçois restent sur 3 défaites. Les Marseillais sont à 2 points du PSG et pourraient reprendre provisoirement la tête du classement. Enfin, si vous voulez continuer à suivre les matchs de Coupe d'Europe, il faudra rester abonné à Canal+. La chaîne du groupe Bolloré conserve ses droits de diffusion pour la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Ligue Conférence pour encore au moins 6 ans.
C'était le journal d'Emma Jacob. Il est 5h07 sur France Inter.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Céline Dacosta, ce matin, petite laine et prudence sur les routes.
Ambiance toujours hivernale pour ce vendredi avec du soleil surtout près de la Méditerranée, du Mistral qui pourrait atteindre les 100 km/h dans l'après-midi, donc des vents forts. De larges éclaircies, on en aura également sur les côtes atlantiques, elles gagneront les bords de Manche dans l'après-midi. Partout ailleurs, des nuages, encore quelques chutes de neige plus marquées sur les reliefs, quelques flocons encore en plaine du nord-est au Limousin, de l'Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'aux Pyrénées, ainsi que temporairement le matin sur les collines normandes ou le centre. Et puis attention au verglas, les températures baissent encore avec de fortes gelées entre moins 5 et 0 degrés en plaine. Près des côtes, ce sera un petit peu moins froid, 0 à 5 degrés. L'après-midi, les maximales resteront bien basses, 0 à 11 degrés du nord au sud, jusqu'à 16 encore pour la Corse.
La météo de Céline Dacosta.
France Inter. Marion Lourd. Le 5-6.
5h08 à suivre sur France Inter. Il est passé des tours du monde au partage avec une équipe amateur, portrait d'un skipper dans les chroniques littorales. De la mer à la terre et au ciel, notre invitée déjà debout est astronome amatrice et décoratrice de céramique. Elle sera avec nous à 6h moins le quart. Pas de démocratie sans médias, il existe pourtant des déserts médiatiques. Définition dans la chronique d'où ça sort. Et puis Tanguy Pastureau maltraite l'info et surtout la solitude des jeunes. C'est à 5h25. Mais avant ça, Bertrand Belin, l'artiste français, qui nous explique pourquoi il ne se voit pas berger. Berger, c'est le titre. Bon réveil sur France Inter.
Si j'avais un troupeau, j'aurais peur de le perdre. Voilà pourquoi, berger, j'ai pas fait berger, berger. J'aurais peur de le perdre. Au bas des falaises, adieu l'amour fou. Bonjour la terre anglaise. Si j'avais un troupeau, j'aurais peur de le perdre. Des traces dans la neige, que sais-je, un torrent de boue, un trou. Si j'avais un troupeau, j'aurais peur de le perdre. Voilà pourquoi berger, j'ai pas fait berger, berger. J'ai pas fait berger, berger. Il pleut.
Berger de Bertrand Belin, titre tiré de son dernier album What, sorti le mois dernier, et il sera en concert le 4 février à Alonne dans la Sarthe. 5h13 sur France Inter, c'est l'heure des chroniques littorales. Bonjour José-Emmanuel Lamarque.
Bonjour Marion Lourd.
Et ce matin, vous nous présentez un coureur au large pour lui et pour les autres.
En la personne de Jean-Pierre Dick, Marion. Jean-Pierre Dick, navigateur de renom aux multiples tours du monde, et on peut dire que si maintenant il ne pratique plus vraiment la course au large, on va dire très médiatisée, il va quand même s'élancer dimanche prochain des Canaries, Las Palmas, Gran Canaria, direction Sainte-Lucie, pour la 40e édition de l'Atlantic Rally for Cruises. Jean-Pierre Dick, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors Jean-Pierre Dick, je l'ai dit, hein, vous pratiquez plus vraiment les grandes courses médiatiques, mais vous pratiquez toujours parce que vous voulez transmettre. Et dans cette course-là, l'Arc 2025, vous allez transmettre parce que vous ne partez pas avec n'importe qui.
Oui, j'ai la joie de partir avec un équipage amateur que j'ai sélectionné, avec lequel je me suis entraîné d'ailleurs.
Il faut le dire, il y a 6 personnes venues de France, d'Allemagne et des États-Unis, c'est ça?
Oui, tout à fait. Ouais. On parle un peu anglais, un peu français, c'est assez marrant.
Oui.
Mais l'idée, c'est de leur mettre un peu le pied à l'étrier à la course au large.
Les initiés. Mais attendez, c'est une course au large, c'est quand même costaud, là.
Ouais, c'est une course au large tropicale, ouais, traversée de l'Atlantique. Ouais. Vivent leur rêve de faire une grande traversée comme ça. Uh-huh. On essaye en sécurité que personne ne prenne de risques.
Votre coéquipier, c'est Éric Defer, hein.
Tout à fait, ouais, voilà. Tout à fait, qui est aussi un coureur au large.
Là, on le connaît surtout pour Blue Observer, hein, parce que lui aussi, il pratique l'observation scientifique.
Ouais, c'était un volet qu'il a bien travaillé, ouais. Effectivement.
D'où vient ce besoin de de vouloir transmettre là. Vous ne voulez plus être médiatisé, vous vous dites on va faire autre chose.
Non, mais c'est quelque part un phénomène naturel. Quand on est jeune, on a des pères, on a des professeurs, et puis ben, quand l'âge grandit, ben, on transmet ce que l'on a appris, quelque chose d'assez naturel, même si la mer, la compétition reste la grande passion de ma vie.
Mais Jean-Pierre Digue, les six coéquipiers qui sont vraiment, on peut dire, des profanes, vous allez les initier, ils sont venus vers vous, vous êtes allé vers eux, comment ça s'est passé?
Ouais, bah c'est un peu du bouche à oreille souvent, ouais. C'est quelque chose que je pratique maintenant depuis presque 8 ans.
Alors on vous dit, tiens, j'ai envie de faire une course au large, trouve-moi un skipper.
Par les réseaux sociaux, les gens qui sont déjà venus à mon bord, qui disent, bon ben... Voilà, je connais quelqu'un qui va pouvoir te faire vivre une aventure un peu hors norme.
Pour une aventure, c'est une aventure.
Ben les gens sont assez excités de le faire dans ces conditions. On essaie tout de même d'être compétitif dans la course. Donc il y a un côté, ils s'arrachent vraiment. C'est pas de la croisière. Les plats sont servis à l'assiette, hein, pas du tout. Chacun a ses quarts, se lever à 3h du matin.
On cuisine des pâtes à la tabarly.
Chacun met un peu d'huile de coude quelque part, mais... Toujours des ambiances très sympas, même si les gens ne se connaissent pas avant de vivre cette aventure, parce qu'ils sont tenus vers un but commun, qui est déjà de passer cette ligne d'arrivée aux Antilles, mais aussi de vivre de façon éveillée ce rêve qu'ils ont de traverser l'Atlantique en course, puisque finalement aujourd'hui c'est devenu un des grands sports français.
Et comment ?
Merci Florence Artaud, merci Eric Tabarly.
Merci Eric Bellion, merci Jean Le Cam.
Voilà, ils vont vivre un peu cela et devenir acteurs.
Jean-Pierre, vous partez à bord d'un Swan 76, qu'est-ce que c'est le Swan 76 ?
Alors c'est un bateau de course-croisière quelque part, peut-être même un bateau en carbone ce bateau-là. Oui. Il a la particularité d'avoir des vrais postes de manœuvre, on fait de vraies manœuvres, beaucoup de winch.
Le wind, ça veut dire que les cordages ne sont pas sur moteur électrique.
Ouais,
les cordages,
non,
hein,
non,
il faut y aller avec l'huile de coude.
Il faut y aller, porter les voiles. C'est un grand bateau tout de même, 23,30 m. Donc ils vont vivre cette course de l'intérieur. Et c'est ça qui est sympa. Et moi, je suis transporté par leur rêve finalement. Parce que j'essaie tout simplement que ce rêve se réalise.
Et Jean-Pierre, ça donnera peut-être l'occasion plus tard d'un livre, non ?
Ah, peut-être, ouais, j'espère. Ouais.
On va attendre ça quand même. Hein. Jean-Pierre Digue, départ dimanche prochain. On va vous souhaiter bon vent avec vos coéquipiers et Eric Defer. Un site internet jpdigue-yacht-au-pluriel.com. Bonne journée, Marion Lourd.
Bonne journée, José-Manuel Lamarque. Il est 5h17.
Le 5-6. Sur France Inter.
Et les unes de la presse s'intéressent encore de près ce matin à la situation ukrainienne et à la déclaration choc du chef d'état-major des armées Fabien Mondon. Au congrès des maires mardi dernier, il avait affirmé que la France devait être prête à accepter de perdre ses enfants face à la menace russe dans un futur proche. Menace russe, l'opinion, la première bataille, martèle le journal L'Opinion, justement tout à côté d'une photo de Fabien Mondon à la tribune du congrès des maires. Tandis que Le Figaro et Les Échos s'intéressent à l'aspect plus géopolitique des choses. L'administration américaine s'apprête à présenter le plan de paix conçu par le président des États-Unis. Le plan de Trump cède aux exigences de Poutine, estime Le Figaro. Préparé sans les Ukrainiens ni les Européens, il fait droit aux revendications territoriales, militaires et politiques du Kremlin. Zelensky, de nouveau fragilisé par Trump, titre de leur côté Les Échos. Portrait du président ukrainien au téléphone, dans une voiture. Le nouveau plan en 28 points reviendrait à une capitulation de l'Ukraine, analyse le quotidien économique, qui alerte aussi sur la possible bulle financière autour de l'intelligence artificielle. IA, la tension persiste à Wall Street. Le Parisien, lui, revient sur le narcotrafic et angle sur les consommateurs pointés du doigt. Ils se sentent éloignés des drames liés à ce fléau, s'étonne le quotidien. Libération a enquêté sur la sphère des médias Bolloré, grand portrait de Pascal Praud en une du quotidien. Sous ce titre, la pro PRAUD, la propagande, portée par ses records d'audience sur CNews et Europe 1, écrit Libé, le présentateur populiste joue de son influence croissante pour tenter d'unir droite et extrême droite. Comme en miroir, La Croix affirme « Échanger, ça s'apprend », c'est le grand titre, accompagné d'un cliché, une femme et un homme en plein débat, mais souriant. Et cette explication, l'opération « Faut qu'on parle » se déroulera samedi dans toute la France pour, je cite, « soutenir l'esprit de dialogue dans la société », une belle perspective. À 5h19, une question sur France Inter. La démocratie peut-elle survivre sans médias ? Titre d'un livre de l'Observatoire des médias pour la Fondation Jean Jaurès. Et question posée donc hier soir à son invité par l'équipe de Zoom Zoom Zen. Et on se tourne vers Cyril Lacarrière pour nous expliquer les déserts médiatiques, d'où ça sort.
Imaginez, vous habitez une petite ville ou un village, un rond-point occupé, un maire historique en ballotage, une usine qui menace de fermer, un conflit social dans une école, et personne pour raconter ce qui se passe. Pas de journalistes, pas de reportages, pas d'enquête locale. Juste Facebook et des rumeurs qui circulent de poste en poste sur les réseaux sociaux et entre voisins. Bienvenue dans un désert médiatique, là où l'information locale a disparu. C'est des États-Unis que nous vient cette expression, à cause d'une étude parue au début des années 2010, une étude de l'Université de Caroline du Nord. Son objet, ces zones où les journaux locaux ferment à grande vitesse. Et le phénomène explose. Plus de 1800 comtés se retrouvent sans aucun média pour couvrir la vie politique locale.
Alors pour quel effet, Cyril ?
Eh bien, on les voit immédiatement. Taux d'abstention en hausse, polarisation accrue, la démocratie locale devient un terrain vague abandonné. Et résultat, à terme, 2016, élection de Trump, 2024, rebelote, Trump numéro 2. Trump élu notamment par une population désinformée et gavée aux fake news. En France, on a souvent pensé être protégé par la tradition de la presse quotidienne régionale. Mais comme souvent, ce qui se passe aux États-Unis finit par arriver chez nous. Ici aussi, les rédactions locales ferment les unes après les autres. Certaines communes n'ont plus aucun journaliste pour couvrir un conseil municipal. Et là encore, l'information, entre guillemets, se déplace vers les réseaux sociaux. TikTok, Facebook et WhatsApp deviennent la principale source d'actu locale pour des milliers de personnes. Mais sans journaliste, impossible de vérifier la réalité des faits. Alors d'où ça sort ? Les déserts médiatiques, et bien de là, et ce n'est que le début de notre histoire.
C'était Cyril Lacarrière dans l'émission de Mathieu Noël du lundi au vendredi à partir de 16h. Il sera question tout à l'heure dans Zoom Zoom Zen de la scientologie avec Gaëtan Pouliot, journaliste à Radio-Canada qui a infiltré une église de scientologie pendant 3 mois. Dans un instant, l'humour de Tanguy Pastureau qui s'intéresse à la précarité des jeunes. Mais d'abord une artiste britannique, Lola Young, qui nous parle, elle, de ses démons, entre autres la drogue. Elle chante « Dealer ». Dealer de Lola Young qui, après un malaise sur scène en septembre dernier, a annulé tous ses concerts pour prendre le temps de se reposer.
France Inter.
À 5h24, Tanguy Pastureau maltraite l'info et surtout la solitude des jeunes. Il revient en effet sur l'entretien télévisé du nouveau président des Restos du Cœur qui a alerté sur l'augmentation de la précarité.
C'est très dur d'être glamour par temps froid. C'est peut-être pour ça que Vladimir Poutine souhaite envahir l'Europe par l'Ouest. Il sait qu'en blouson de ski, personne n'a envie de se le taper. Je pense qu'il va envahir les Canaries, puis Hawaï. Et ce matin, il y avait même du givre sur les pare-brises. Avec le doigt, j'ai écrit Pastureau président. J'attends de voir comment c'est perçu. La personne va-t-elle donner un coup de raclette pour savoir si je me lance ou non. Et qui dit froid dit souffrance. Les Restos du Cœur, par exemple, viennent de rouvrir. J'adore les Restos du Cœur, surtout grâce à la chanson des Restos qui, en 1986, a été écrite par Jean-Jacques Goldman. Il y avait toutes les stars de l'époque, à part Daniel Morin, qui, comme aujourd'hui, devait être souffrant le jour de l'enregistrement. Et je me souviens que Michel Drucker disait dans cette chanson « J'ai pas mauvaise conscience, ça m'empêche pas de dormir ». Et moi, j'étais petit, donc entier. Et je me disais « Mais qu'est-ce qui t'empêche de dormir alors, salaud, va ?» Puis j'ai réalisé que moi aussi, malgré la pauvreté, j'arrivais à dormir. Alors je me disais, Drucker et moi, mais on est les deux pires fils de la Terre. Sauf un jour où je m'étais dit, mais enfin, moi j'ai 12 ans, je fais 4 heures de foot par jour et du bicross, et j'ai écouté le nouveau Modern Talking, tout ça use physiquement et intellectuellement. Drucker lui a juste interviewé Rose Laurence, charge mentale zéro. C'est là que j'ai réalisé que j'étais une meilleure personne que Michel Drucker. Mardi, le président des Restos du Cœur, Jean-Michel Richard, était invité de la matinale de TF1. Monsieur Richard a parlé de la précarité qui augmente. Et des jeunes, parce qu'ils sont nombreux à venir au resto. 50% des personnes accueillies, dit le président, ont moins de 25 ans. Voilà, je vous laisse un petit temps pour y penser. Voilà, on n'a pas beaucoup de temps en radio. Bien. Donc, vous savez que je suis libéral. Hein, voilà, un jeune, j'aurais tendance à lui dire, écoute, t'es en forme, tu te bouges, ouvre un compte OnlyFans pour les fétichistes des pieds, comme tout le monde, quoi. Mon rêve étant que Benjamin Millepied ouvre un compte. Non, parce que comme ça, il y aurait les fétichistes des pieds et des calembours. C'est-à-dire Paul Delaffre en tongs serait en sueur devant son écran d'ordi. Mais ici, c'est France Inter, ok, pas le journal Les Échos. Alors, je vais faire taire le business manager qui sommeille en moi, Jean David, pour faire parler le travailleur social en moi, Thomas, dit Tom. Monsieur Richard parle d'épidémie de solitude chez les jeunes. Ils n'ont jamais été aussi seuls. Ce qui est cruel comme constat, parce que la jeunesse, c'est le groupe. En théorie, c'est le moment où on est le plus entouré, à part les acnéiques. Même moi qui suis moins sociable qu'un Rottweiler à qui on viendrait de couper la queue, jeune, j'avais des potes. Et en cas de coup dur, on s'épaulait quand il y en a un qui se faisait virer de chez ses parents. Bah, je lui montrais le paillasson sur le palier en lui disant « Je t'en prie, bah, passe la nuit ici et demain, en contrepartie, tu me feras le ménage et tu laveras mes slips. » Pourquoi ? Parce qu'on était humains à l'époque. Je sors des jeunes, comme dirait Vincent Cassel. Si on prend la population générale, parmi les gens accueillis au resto, un tiers disent se sentir seuls, 27% n'avoir absolument personne sur qui compter. À toutes ces personnes, j'ai envie de dire « Venez ». Pas chez moi, bien sûr, mais chez Oldelaf, car il est de gauche. Hein, une soirée crêpe, une guitare, c'est de la convivialité.
C'est la fête.
Merci pour notre ami. Et voyez comme c'est paradoxal. La jeunesse et la solitude ne vont pas ensemble. Et c'est triste, moi je trouve, de passer seul les meilleures années de sa vie. On réalise plus tard que ce sont les meilleures années de sa vie. Moi, chaque matin, j'y pense, je me dis, mais il y a eu un moment où je me levais de mon lit, je n'avais mal nulle part. J'étais en forme alors que je buvais que de la chicorée. J'écoutais The Offspring et Green Day et je ne trouvais pas ça trop fort. Hein, je disais, il est où le 12 sur volume 1 à 10?
Oui.
Vers 20 ans, j'habitais Rouen et certains matins, pas tous, mais cela était magique. On allait au bord de la mer voir le lever du soleil. On était une bande. La plupart d'entre nous étaient précaires. Parfois, sur un Rouen-Étretat, la voiture qui était pourrie tombait en panne à 4 km de Rouen. Le lever du soleil, on le voyait au-dessus d'un champ de vaches. Mais on s'en foutait parce qu'on écoutait Fatboy Slim, Right About Now. Et ces souvenirs communs sont précieux parce qu'ils étaient partagés. Quels seront les souvenirs des jeunes qui aujourd'hui sont dans la solitude? Je le dis comme je le pense, je trouve ça affreux. Même Jean-David, le trader en moi, qui pourrait crier « Allez, tête mollusque, on se bouge !» Eh ben, n'a pas envie de le faire. Je souhaite à chaque jeune des levées de soleil à plusieurs parce que les levées de soleil ont ceci de beau qu'on regarde dans la même direction, ensemble en fait.
Tanguy Pastureau dans la bande originale de Nagui et Leïla Kaddour de retour à midi sur France Inter dans une poignée de secondes, le journal.
France Inter présente
le podcast Syrie, anatomie d'un siècle tourmenté.
Thomas Negaroff.
Quelques jours après la visite du nouveau président syrien Ahmed al-Shara à la Maison-Blanche, où en est la Syrie débarrassée du clan Assad? Quelle est l'histoire de ce pays tant convoité et si vulnérable aux ingérences extérieures?
En 6 dates clés.
6 grandes dates, 6 épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec Mathieu Ray, chercheur au CNRS, au Centre de Recherche Historique.
Syrie, anatomie d'un siècle tourmenté.
À télécharger sur l'appli Radio France.
5h28 sur France Inter. Et voici Ali Badou. Bonjour Ali.
Bonjour Marion Lourd.
Qui vient de me rejoindre dans ce studio pour nous donner à tous un avant-goût du 6-9.
Avec au programme aujourd'hui à 6h20. Julia Mouzon sera votre invitée. Elle est fondatrice et présidente du réseau Élu Local à l'occasion des Journées des Femmes Élues au congrès de l'Association des Maires de France. À 7h45, nous sommes vendredi, le débat éco avec Thomas Porcher, Dominique Seux, portera sur l'économie française et si cette économie ne fonctionnait que pour les plus riches, c'est le sujet dont nos deux débatteurs s'entretiendront. Et à 8h20, le grand entretien sur le narcotrafic avec notre invité, un invité exceptionnel, l'écrivain et journaliste italien Roberto Saviano, grande voix de la lutte contre le narcotrafic en Italie et ailleurs et qui a reçu hier le prix Constantinople 2025 pour son formidable roman Giovanni Falcone qui a été publié aux éditions Gallimard.
À tout à l'heure Ali.
À tout à l'heure.
France Inter, il est 5h30. Le journal, Emma Jacob, bonjour Emma.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Et cette question pour commencer, qui sont les victimes du groupe Lafarge ?
Elles pourraient en tout cas être plus nombreuses que prévu. Le cimentier français est jugé au tribunal correctionnel de Paris pour financement du terrorisme, accusé d'avoir maintenu ses activités en Syrie au moment de la guerre civile et d'avoir pour ça versé de l'argent à des groupes djihadistes dont l'État islamique. Dans ce procès, les parties civiles sont entendues en ce moment. Depuis la première plainte en 2016, elles sont de plus en plus nombreuses, Charlotte Piret.
Les premiers à avoir déposé plainte pour financement de terrorisme sont des associations venues dénoncer les petits arrangements de Lafarge avec le terrorisme au nom d'intérêts économiques. 11 anciens salariés de cette cimenterie du nord de la Syrie se sont également joints à cette plainte du fait des risques sécuritaires auxquels ils estiment avoir été exposés. Certains ont été kidnappés par des groupes armés et ce n'est qu'au tout dernier moment, devant un assaut imminent de Daesh, que Lafarge a décidé d'évacuer sa cimenterie, près de 2 ans après le départ des autres multinationales présentes dans le pays. Mais plus récemment, des victimes de terrorisme, celles des attentats du 13 novembre 2015, se sont également constituées parties civiles. Certaines ont même demandé à témoigner à la barre car elles estiment qu'il existe un lien direct entre les millions d'euros versés par Lafarge à l'État islamique et les attentats commis en France. Une position qui fait bondir la défense et soulève de vrais questionnements juridiques que le tribunal devra aussi trancher à cette audience.
Plusieurs anciens dirigeants du groupe Lafarge sont sur le banc des prévenus pour ce procès. Face aux maires, lors de leur congrès annuel hier, Sébastien Lecornu promet une simplification des normes. Par exemple, la fin de l'obligation de vidanger une fois par an les piscines municipales. En tout, une trentaine de règles jugées irréalistes par le Premier ministre doivent être supprimées. Autre promesse, une prime annuelle de 500 euros pour tous les maires. Et Catherine Vautrin, elle, vole au secours du chef d'état-major des armées après ses déclarations polémiques. Selon la ministre des armées, le général Mandon est parfaitement légitime à s'exprimer sur les menaces pesant sur la France. Mardi, le militaire a estimé que le pays devait se préparer à perdre ses enfants. Des propos dénoncés par plusieurs responsables politiques.
Impossible de se rendre chez SOS Médecins dans plusieurs villes du Nord.
Rideau baissé à Tourcoing, Roubaix et Lille car les médecins sont en grève et très en colère après l'agression d'un de leurs collègues cette semaine, insulté, jeté au sol et frappé dans son cabinet de Tourcoing. Ce qui en rajoute, c'est que l'acte était prémédité, selon SOS Médecins. Son président à Roubaix, Serge Bomoko, dénonce des incivilités de plus en plus fréquentes.
Là, c'est une véritable expédition. On va casser le médecin, on va punir le médecin, on va corriger le médecin, en tout cas. C'est la première fois. Les incivilités, c'est relativement le quotidien. À des degrés différents, des gens qui, en fonction de leurs exigences, qui tentent d'obtenir ou d'imposer certaines choses. On arrive parfois à gérer, tant bien que mal. Parfois on dépose plainte, parfois pas. En tout cas, de cette manière, on est venu dans le but d'en découdre. Ça, c'est quand même un pas qu'on a franchi. Oui, c'est angoissant. Oui, c'est inquiétant. C'est inquiétant pour notre profession, c'est inquiétant pour ce métier que nous faisons, que nous aimons, hein, sinon on ne serait pas là. Et le confrère en question, il y a déjà 2 semaines, il s'est fait agresser. J'étais là, on est sorti tout de suite avec des collègues pour aller lui voler à son secours. Mais c'était verbal, mais violent. Et nous, nous disons, allons-nous bosser maintenant, vous imaginez, quelqu'un entre dans votre bureau comme ça, on va devoir fermer, hein, définitivement.
Serge Bomoko, président de SOS Médecins Roubaix, au micro de Sophie Morlandi-Sinor. L'homme suspecté de cette agression s'est finalement rendu au commissariat
commissariat et a été placé en garde à vue mercredi soir. Après la messe en hommage au maréchal Pétain à Verdun, une autre tentative de réhabilitation à Paris cette fois. Une messe pour célébrer la mémoire de Franco était prévue fin novembre, 50 ans après la mort du dictateur espagnol. Les organisateurs annoncent finalement son annulation à cause de pressions médiatiques exercées sur les lieux de culte, selon leur communiqué. Deux magasins de l'enseigne de bricolage Leroy Merlin vont fermer à Paris, annonce du groupe hier. 280 salariés sont menacés, mais d'autres postes leur seront proposés, assure l'entreprise. Elle est surnommée par ses fans la Reine de France. Aya Nakamura sort son nouvel album aujourd'hui, Destinée, c'est son cinquième. L'artiste francophone la plus écoutée dans le monde se produira pour la première fois au Stade de France l'année prochaine. Trois dates en mai 2026, dont les billets sont partis en quelques heures. Il est désormais le tableau le plus cher jamais vendu, réalisé par une femme. Le rêve de l'artiste mexicaine Frida Kahlo a été adjugé pour 54,6 millions de dollars, un peu plus de 47 millions d'euros. C'était lors d'une vente aux enchères cette nuit à New York.
Bien, je vous invite, Emma Jacob, à rejoindre votre lit comme les sujets de ce tableau.
Bonne journée.
Bonne journée, allez vous mettre au chaud, c'est encore une journée hivernale ce vendredi. Un peu de soleil près de la Méditerranée avec tout de même du Mistral et de la Tramontane jusqu'à 100 km/h, éclairci aussi sur les côtes atlantiques. Ailleurs, nuages et quelques chutes de neige plus marquées sur les reliefs à partir de 200 mètres et jusqu'en plaine sur les collines normandes et le centre avec des averses de pluie et de neige mêlée en Normandie. Il fait froid, les gelées matinales sont donc fréquentes. Prudence sur les routes ce matin. Entre moins 5 et 9 degrés ce matin, 0 à 13 cet après-midi. 3 à Lyon et Clermont-Ferrand, 4 à Lille, 5 à Paris et Toulouse, 6 à Tours, 7 à Perpignan, 8 à Marseille, 9 à Brest et Rennes, 10 à Nice et 13 à Ajaccio.
Le 5-6 sur France Inter.
Et c'est l'heure de retrouver Mathieu Conquet pour la playlist. Bonjour Mathieu.
Bonjour Marion.
Ce matin, vous nous parlez d'un talent singulier venu de Chicago, Monty Booker.
Et je n'ai qu'une chose à vous dire, Marion, laissez-vous porter.
Allez.
De bonne heure par les sons de Monty Booker. If you stand me right, flavors come. Take over, I can never say I treat you nice. Can you handle spice? Take me up, shake, shake me up until that mix is right. I won't be nice. Sucré, salé, épicé, nous dit le refrain de Spice avec la voix archi sucrée de Ravine Lenay, jeune chanteuse de Chicago. Je suis ta chanson préférée, sirote-moi jusqu'à ce que je parte. Hein, c'est imagé tout ça.
Ouais.
Celle qui chante et celui qui produit cette musique se connaissent depuis longtemps. Ils ont commencé à faire des morceaux, elle avait encore 17 ans. Et ce que vous entendez là remonte à 2017. Depuis ça, le nom de Monty Booker revient incessamment dans des morceaux toujours plus recherchés. Il fait partie des architectes, notamment de la dernière mixtape de Doechii, héritier de Timbaland et Flying Lotus, un des producteurs qu'on connaît pour leurs pattes ouais. vraiment singulières, des sonorités complexes, mais c'est toujours d'une grande fluidité. Monty Booker a ce goût de l'expérimentation. Il a 30 ans, il vient de Chicago, il fait partie du collectif Zéro Fatigue, qui s'est fait connaître notamment avec la chanteuse qu'on entend là, Ravine Lenay, et le rappeur Smino. C'est le chouchou des amateurs de hip-hop complexe, hybride. Monty Booker a vécu ces dernières années le passage de l'underground au flow massif par la grâce des réseaux sociaux. Tout a changé avec ce morceau, Colors, qui, des années après sa sortie, est devenu une danse virale sur TikTok, reprise, rejouée plus de 10 millions de fois.
Colors de Monty Booker avec Smino. Vous étiez en train de me mimer la danse, Mathieu.
Bah oui,
ça donne quoi alors?
Bah c'est à l'image du morceau, c'est déstructuré, syncopé, léger, très souriant. Monty Booker, on le reconnaît pour ce R&B brumeux où il y a des progressions d'accords qui s'enrichissent de sons étranges, de textures au fur et à mesure. Mais c'est surtout par ses beats, par sa métrique particulière que Monty Booker est reconnaissable. On pourrait parler de signature rythmique, hein, c'est toujours légèrement décalé, c'est jamais vraiment plaqué sur la grille. Beaucoup de caractère et un sens du défaut, des petites erreurs exploitées avec art. Monty Booker vient de sortir un album. Noise Meaning, avec plein d'invités, notamment l'éthiopienne américaine Mereba.
Castles collapse and they sit. Keep it serene till you come with the racket and shit. Now I'm serene of the past. If this shit is past and it's tense. They said they won't let us in. I said they really playing catch up. Mine's Bam Maverick, no if buts. I don't give a rat's ass or a squirrel's last fuck. Everything apostrophe. The world is mine from mustard seed. These ain't shots fired, these just bullets in the wind. Word to Dylan and my kid is next to kin. If I ever die mysteriously, it's just crazy. Need a pad that's padded and peaceful. I am Tracy, keep my ass fat and smile and teeth full. I need my Benjamins, I need my Grants, I need my Jacksons. You need some air, you need some grass, you need a passion. Target practice, sharpen my sword, the creed is assassin. Look, 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 baby, these days may be the last ones.
Booker et Mereba, B2B,
voilà, business to business.
Business to business. Allez, back to business, Mathieu. On va retrouver ça dans la playlist de France Inter. Et on vous retrouve, vous, ce soir, 21h, pour d'autres découvertes et nouveautés. Et
oui, je vous parlerai d'un jeune rappeur en conflit musical avec son père, qui est lui un rappeur très connu. Je vous parlerai de l'anglais Obong Jayar, d'une jeune brésilienne. Il y en aura pour tout le monde. Et je remets le son à ce soir.
À ce soir. À 5h41, le premier grand reportage en ce petit matin nous emmène au Sénégal. Là-bas, la mode est aux lèvres gonflées, postérieures bombées, seins refaits, notamment sur les réseaux sociaux. La chirurgie esthétique séduit donc de plus en plus. Et les clientes trouvent leurs adresses sur TikTok ou via des influenceuses qui font la publicité des établissements low cost en Tunisie ou en Turquie. Sauf que les promesses d'un corps de rêve cachent des dérives inquiétantes et des pratiques médicales à risque. Reportage Sophie Douce.
Ah voilà, donc là, j'ai tout l'historique.
Aminata fait défiler les messages sur son téléphone. Il y a quelques mois, cette Sénégalaise de 46 ans qui préfère garder l'anonymat a contacté une clinique de chirurgie esthétique en Turquie.
Le processus est très très simple. C'est-à-dire que tu es sur Facebook, tu as un lien, tu cliques dessus. Donc tu as très rapidement un agent marketing qui te prend en charge, qui commence même à faire le bilan préopératoire.
Complexée après ses quatre grossesses, cette publicitaire souhaite réaliser une liposuction. On lui demande simplement d'envoyer ses mensurations et des photos. La promesse d'un corps de rêve en quelques clics.
Ce qu'ils vous font miroiter, c'est la réussite. C'est-à-dire que vous venez en tout anonymat et vous êtes sûr de réussir l'opération à 100% avec des médecins qui sont hyper performants. Ils vous disent que la cicatrisation peut durer une semaine, que l'opération ne fait pas mal. Pour moi, ça, c'est du rêve.
Le montant, environ 5000 euros pour un forfait de 5 jours, opération, hôtel et chauffeur compris.
Ils ont un groupe d'hôtels. Ils vous proposent, dès que vous venez à l'aéroport, le service pour vous amener à l'hôtel. L'hôtel aussi, ça fait partie du package. Dès qu'ils envoient le devis, il y a énormément de relances pour vous mettre un peu la pression pour que vous puissiez commencer le processus, payer et puis venir faire l'opération.
Aminata sent l'arnaque et préfère se tourner vers un chirurgien de confiance à Dakar. Mais au Sénégal, ces séjours tout compris attirent de plus en plus de femmes. Avec des opérations jusqu'à deux fois moins chères qu'en Europe, la Turquie et la Tunisie sont devenues des destinations phares du tourisme médical.
Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis
sur TikTok, des influenceuses multiplient les vidéos sponsorisées par les cliniques.
L'OSA est tellement naturel.
Donc j'étais avec l'agence Glam Travel, j'ai eu le temps de visiter le pays, qui d'ailleurs était beaucoup plus beau que ce que j'imaginais. Mais j'ai surtout
eu le temps à retirer la graisse du ventre et du dos, plus une abdominoplastie qui, elle, consiste à retirer l'excès de peau qu'il y aura après le retrait de graisse. Bref, je suis passée de ça à ça.
Selfie dans des chambres luxueuses ou à la piscine, photos avant-après, une publicité agressive et trompeuse, pourtant interdite par la médecine, qui inquiète les professionnels de santé.
C'est pas les mêmes photos.
Le docteur Lamine Diaye, spécialiste en chirurgie plastique et esthétique à Dakar.
Le plus souvent, c'est plus du marketing, l'hôtel 5 étoiles, la conciergerie, mais sur le plan médical, l'information en général ne passe pas. Même les influenceurs, c'est pas des personnes qui sont dans le domaine médical, c'est des agences parfois, qui leur ont proposé des forfaits pour se faire opérer à l'étranger, moyennant des rémunérations.
Dans son cabinet, il tente de soigner les patientes après une opération ratée, infection, hémorragie, douleur chronique. Les complications se multiplient faute de suivi post-opératoire.
Il y a une patiente qui m'a montré une vidéo d'un saignement qu'elle a eu dans l'avion au moment de son retour. Elle-même, elle ne peut pas vous dire exactement ce qui a été fait comme intervention. Parce que le principal problème, c'est qu'elles viennent sans aucun document. Il n'y a pas de rapport médical. Après, là, il est très difficile de faire des suivis des choses qu'on ne connaît pas. Tu envoies des choses et tu te poses la question si réellement cette personne, c'est un chirurgien plasticien qui le fait.
Il y a quelques mois, la mort d'une mannequin à seulement 28 ans après une opération en Turquie a choqué au Sénégal. Face aux diktats du corps parfait sur les réseaux sociaux, les médecins s'inquiètent aussi des risques sur la santé mentale des jeunes femmes.
Le grand reportage d'Un jour dans le monde, signé Sophie Douce, est à retrouver sur franceinter.fr.
France Inter. Marion Lourd. Le 5-6.
Il est 6h moins le quart et c'est l'heure de contacter notre invité déjà debout, céramiste entre Biarritz et la Bastide Clérance dans les Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Béatrice Penn.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Pourquoi êtes-vous déjà debout ?
Ah, et écoutez, comme beaucoup d'auditeurs, je pense que c'est parce que je me suis couchée tôt. Donc, j'écoute naturellement mon cycle de sommeil et souvent, je me lève très tôt. Donc, je vous entends le matin. Mais je pense que beaucoup de gens sont comme ça, à se lever tôt le matin.
Vous faites partie de ces gens très agaçants donc qui se lèvent naturellement entre 4 et 5 heures du matin.
Oui, exactement, exactement. Et bon, ce matin, je vais être tout à fait honnête, j'ai mis le réveil au cas où, mais normalement, je n'ai jamais de réveil, quoi.
Voilà. Mais parce qu'il faut dire que vous faites parfois la grasse matinée jusqu'à 7 heures quand même.
Oui, ça peut m'arriver, il ne faut pas exagérer.
Voilà, la première chose que vous faites le matin, et ça c'est très joli, c'est regarder les étoiles.
Oui, c'est vrai. Et bon, là, aujourd'hui, on est dans le brouillard parce que... Il y a une petite rivière qui s'appelle La Joyeuse à la Bastide Clérance et on est dans le brouillard ce matin. Mais autrement, effectivement, je regarde toujours où sont placées quelques planètes et quelques étoiles en fonction. Ben, je sais pas, là en ce moment, on a une nouvelle lune, donc on voit, normalement, on a un ciel magnifique pour regarder les étoiles. Mais il y a du brouillard, voilà.
Et parfois, la deuxième chose, alors là, c'est si vous êtes à Biarritz, c'est d'aller vous baigner.
Oui, en fait, je marche. Là, arrivé en novembre, je ne fais pas partie des ours blancs qui y sont tous les jours, et j'en connais beaucoup qui y sont tous les matins, au lever du soleil. Mais marcher au bord de l'océan, c'est quelque chose d'extraordinaire, et on est beaucoup à se croiser le matin, à se dire bonjour, à lier des amitiés, c'est très très sympa. Les gens du tout petit matin sont différents. Après, quand arrive beaucoup de monde, c'est différent. Voilà.
Et Béatrice, votre four se trouve à la Bastide Clérance. Je disais que vous êtes céramiste. Ça veut dire que vous faites quoi ?
Alors, en fait, je ne suis pas céramiste dans ce qu'on dit d'habitude. Moi, je pars souvent de porcelaines qui existent déjà, qui sont faites par des belles manufactures de porcelaine. Et moi, je fais le design sur les assiettes et je commande mes propres dessins sont faits par des imprimeurs spécialisés en décalcomanie pour très haute cuisson. Et donc, je pose à la main mes décors et je les recuis jusqu'à 1150 degrés pour que ma porcelaine reste toujours une porcelaine professionnelle qui va au four, au micro-ondes, à la chaleur tournante, elle a peur de rien après, quoi.
Voilà. Sans que vos décors s'abîment. Pour qui vous travaillez ?
Alors, je travaille pour des musées. Oui, oui. En fait, je travaille pour le grand public au départ parce que c'était un site internet. Donc, moi, je voulais juste mettre un peu d'humour et de poésie dans la vaisselle, quoi. Et puis, petit à petit, je travaille aussi pour des restaurants qui aiment bien ma façon de dessiner, qui me demandent de dessiner leur village ou leur ville. Et donc, voilà, comme ça, j'ai fait Parentis sans bornes pour un restaurant. J'ai fait Fouras. Mais après, j'ai aussi fait New York, Paris. Il m'est arrivé de faire des séries limitées pour les Galeries Lafayette, pour le 100e anniversaire des Galeries Lafayette. Des toutes petites séries. Je suis une épicière. Souvent, je dis ça. Je suis une épicière. Voilà.
Et pour la mairie de Biarritz, pour les cadeaux des, oui, des jeunes mariés aussi.
Ouais. Le cadeau de mariage, ça fait 18 ans et en fonction des changements, des humeurs des différents maires, j'ai fait 7 ou 8 versions de cadeaux de mariage. Et là, en ce moment, on a un nouveau plat qui s'appelle La Plage avec un petit panneau Biarritz qui est une série limitée que pour la mairie, qui est hyper jolie. Enfin, j'espère, je crois qu'ils sont très contents.
Alors, ça fait 20 ans que vous êtes céramiste et c'est vrai que ça n'a rien, ouais, à voir à la base avec votre parcours, puisque, oui, vous avez notamment été journaliste et pas seulement. Et puis, ouais, ouais. Biarritz, on en parlait, c'est là où vous vendez vos céramiques et là, il va y avoir quelque chose de spécial au moment de Noël.
Oui, en fait, à partir de vendredi prochain, j'ouvre ma petite boutique éphémère. Donc, c'est derrière la gare du Midi, en fait, en centre-ville, hein, parce que c'est une salle de spectacle chez nous, la gare du Midi. Et donc, en fait, je fais une petite boutique qui est ouverte tous les week-ends pour que la semaine, je puisse continuer à fabriquer et à produire au village. Et comme ça, c'est en entrée libre. Les gens, alors souvent, ils réservent un peu à l'avance parce que j'ai des petites quantités de toutes mes créations. Mmh. Et puis après, c'est très sympa, c'est des rendez-vous annuels. Cette année, j'ai fait une vraie petite boutique. Je me suis un peu plus fatiguée que d'habitude. Et c'est très sympathique. Voilà, ça va durer 3 semaines. Voilà.
Eh ben, il est un peu tôt, mais je vous souhaite déjà bonne fête, Béatrice Penn, céramiste dans les Pyrénées-Atlantiques. Merci beaucoup de nous avoir répondu.
Merci
ce matin
Marion,
sur Inter.
Et bonne journée à tous.
Bonne journée. 5h50 sur France Inter. Avant un café philo cartésien avec Patricia Martin, c'est Drake. Hold on, we're going home.
Just hold on, we're going home. going home. Just hold on, I'm going home. It's hard to do these things alone. Just hold on, I'm going home.
Hold on, we're going home, de Drake, c'était en 2013.
France Inter. Le 5-6.
Et c'est l'heure de Café Philo. Bonjour Patricia Martin.
Bonjour Marion Lourd.
À l'heure de la douche, il est encore tôt et pourtant vous nous plongez dans un bain cartésien.
Il est tôt, je vous l'accorde, surtout pour les lève-tards, ce qui était le cas de Descartes.
Ah oui.
Il détestait se réveiller de bon matin.
Bon, on va dire que pour lui, à présent, l'heure n'a plus d'importance.
C'est pas faux. Descartes est mort en 1650, pas très vieux, hein, même pour l'époque, il avait 53 ans. Il est mort à Stockholm. Quelques années plus tard, sa dépouille a été rapatriée en France. Alors, je vous passe les péripéties de la suite de l'histoire. Toujours est-il que son crâne avait disparu,
ah oui,
puis a été retrouvé. Enfin, on n'est pas vraiment sûr que ce soit le sien de crâne. Reportage dans le musée Descartes, en Touraine, dont il était originaire, en compagnie de Sylvie Garnier, la conservatrice du musée.
Ce crâne étalé a été donné par ce savant suédois à notre savant français Georges Cuvier, lequel paléontologiste, lequel l'a donné au musée de l'Homme pour l'exposition universelle de 1937. Donc voilà notre crâne de Descartes arrivé en France et à l'exposition de universelle, là, aux yeux, aux vues de tout le monde.
Et le crâne en question est toujours au musée de l'Homme.
Alors, va pour l'histoire du crâne, Patricia. Ce qui est important quand même, c'est que dans le crâne, il y a un cerveau, non ?
Non, sans blague. Et non des moindres, hein, lorsqu'il s'agit de celui du grand René. Pas étonnant qu'il fascine philosophes et scientifiques, au nombre desquels Lionel Nakache, professeur de neurologie. Pour lui, le plus important chez Descartes, c'est...
Pour moi, un élément fondamental pour moi de la pensée de Descartes, c'est ce qu'on va appeler l'opération de mise entre parenthèses. C'est-à-dire qu'en réalité, quand Descartes se demandait vraiment quelles sont les preuves de mon existence, le fait de pouvoir douter, exercer le doute sur tout ce qui l'entoure, il trouve une seule chose qui peut résister à cette mise entre parenthèses. Est-ce que ce soit vrai ou pas, je ne sais pas, donc ça je m'en occupe pas. Il reste une chose, il reste son activité pensante. C'est-à-dire que le fait de penser, l'activité de penser, quel que soit son contenu, et je le traduis aujourd'hui, la vie mentale consciente, quel que soit ses contenus, ça c'est le socle de base à partir duquel on peut définir notre existence. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est une découverte à la fois géniale et profondément intemporelle sur laquelle on peut construire aussi une science de la subjectivité.
Construire une science de la subjectivité, rien que ça. Vous allez parler de Descartes, Patricia, dans leur philo ce soir, avec Laurence de Villers, qui est autrice d'un Que sais-je consacré à Descartes, et Daria Schmidt, qui publie une superbe bande dessinée ayant pour objet le fameux crâne et intitulé La tête de mort venue de Suède. Quel titre ! Publié aux éditions de l'Air Libre.
Alors, superbe, le mot est juste, hein, parce que c'est une BD vraiment formidable et très documentée, qui plus est.
Eh bien, on en parlera ce soir avec vos invités. Patricia Martin, à ce soir.
À ce soir, merci Marion Lourd.
20h10.
France Inter, 11h, Nagui et Leïla Kadour.
Ce vendredi, nous recevons Sabrina Ouazani et Camille Rutherford.
Et nous découvrirons le quotidien d'une jeune femme qui entend les pensées des gens avec la série Extra Lucide.
La bande originale, tous les jours à 11h sur Inter.
À l'écoute des pros avec TGV Inouï. Dès le 8 janvier 2026, TGV Inouï lance Optimum, la nouvelle classe premium pensée pour les professionnels. Marc, vous êtes directeur offre TGV Inouï, alors de quoi s'agit-il ?
Eh bien, Optimum, c'est une expérience de voyage premium proposée du lundi au vendredi sur tous les TGV Inouï au départ ou à l'arrivée de Paris.
D'accord.
Les pros bénéficient à bord d'un espace exclusif et confortable, une voiture entièrement dédiée qui offre une parenthèse au calme.
Donc un cadre adapté au travail et au repos.
Exactement. Et on accompagne nos voyageurs à tout moment grâce à un service client dédié qui apporte des solutions rapides et personnalisées. Et en gare, ils ont aussi accès au salon TGV Inouï.
C'est donc une offre complète.
Oui. Et vous pouvez réserver dès maintenant et retrouver toutes les infos sur tgvinouï.sncf.
5h58.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Et voici venir Céline D'Acosta. Bonjour Céline.
On dirait une chanson.
Et voilà.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
C'est une chanson pour vous ce matin. L'ambiance est encore bien froide aujourd'hui.
Oui, avec des températures négatives quasiment partout ce matin. Une moyenne de moins 4 à 5 degrés du nord au sud, un petit peu plus près des côtes. Et puis cet après-midi, ça ne va pas beaucoup grimper. 2 à 6 degrés. Là aussi, on pourrait rajouter quelques degrés près des côtes. On aura par exemple 8 à Biarritz, 9 à Brest ou 11 à Toulon, mais seulement 3 à Lyon, 4 à Strasbourg et 5 à Paris.
Et pour le ciel, ce sera nuageux sur les 3 quarts du pays.
Oui, et sous ces nuages, on aura parfois des averses de pluie et neige mêlées. C'est le cas sur la Normandie ce matin, mais comme hier, la neige peut tenir au sol sur les plaines. Quelques petites chutes de neige sont possibles également à très basse altitude sur tous les reliefs où elles seront plus durables et plus marquées. Et puis en plaine, sur un bon quart nord-est jusqu'au Limousin, l'Auvergne-Rhône-Alpes et vers les Pyrénées. Là aussi, on pourra avoir des petites floconnades. Il reste du soleil tout de même, hein, toute la journée près de la Méditerranée avec un vent très fort. Ce matin, de la Bretagne vers l'Aquitaine et cet après-midi, près de la Manche où là aussi, les éclaircies reviendront assez largement.
Merci Céline D'Acosta. Ali Badou est de retour dans le studio quelques secondes avant le 6-9. Vous avez le temps de nous redire qui sont nos invités ce matin, Ali.
Alors à 6h20, votre invité sera Julia Mouzon, fondatrice, présidente du réseau Élu Local à l'occasion des Journées des Femmes Élues au congrès de l'Association des Maires de France. À 7h45, le débat éco avec nos deux duellistes, Thomas Porchet et Dominique Seux, autour de cette question. L'économie française fonctionne-t-elle pour les plus riches? On y verra plus clair donc tout à l'heure avec eux. Et à 8h20, l'invité exceptionnel dans le grand entretien, l'écrivain italien Roberto Saviano, grande voix de la lutte sur le narcotrafic. Il a reçu le prix Constantinople en 2025, hier, tout juste hier, pour son roman Giovanni Falcone, paru aux éditions Gallimard. Voilà pour le programme.
France Inter, il est 6h.